Nous allons ce matin dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, et les versets 35 à 41. Il s'agit de l'épisode bien connu où Jésus apaise une tempête. Le soir de ce même jour, il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau, il y avait aussi d'autres bateaux avec lui, survient alors une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau, déjà il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui-ci ? Que même le vent et la mer lui obéissent. » Comme dans notre texte du jour, il y a des événements qui bousculent, perturbent, renversent et parfois même saccagent. On ne sait pas du tout d'où ils viennent, ces coups de vent, mais ils remettent en cause notre vie au point de nous donner le sentiment de perdre pied. Nos filets de sécurité, pourtant testés 50 fois, n'ont pas l'air de pouvoir toujours résister à tout. Les textes bibliques, pour corser l'affaire, donnent aussi d'autres récits de tempêtes qui finissent mal. Jonas est débarqué par des marins qui ne veulent pas couler avec lui, parce qu'il empeste la malédiction à plein nez. Un homme à fuir. L'apôtre Paul a fait naufrage 3 fois en Méditerranée. Et à chaque fois, sa survie était loin d'être assurée. Sans compter que Dieu, dans la Genèse, est dès le départ aux prises avec le tohu-bohu, le chaos, l'abîme, ces choses difficiles à maîtriser, ces choses fluides, englobantes et qui peuvent nous perdre. Noé et sa famille, plus quelques échantillons d'animaux, quelques hamsters, quelques escargots, quelques rhinocéros, sont les seuls survivants d'un déluge d'ampleur cosmique. Quand on lit la Bible et qu'on a ces récits de tempêtes qui finissent mal, pas pour tout le monde certes, mais quand même, on se souvient que les Hébreux n'avaient pas le pied marin, et alors on comprend pourquoi. Cela dit, Jésus a quand même recruté un certain nombre de marins pêcheurs professionnels qui avaient l'habitude, eux, d'aller sur l'eau. Ça compense un peu. Mais l'élément constant de ces récits, malgré le danger, malgré la mort omniprésente, c'est plutôt la présence de Dieu au milieu même de ces périls, malgré les dégâts considérables causés par une mer en furie, il est là. Alors, présence, bien sûr, mais danger tout de même. Nous savons bien que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Cela ne nous empêche pas de nous demander comment réagir lorsque les vents nous sont contraires. Et pour nous aider à réfléchir à cette question importante, Marc nous donne un récit de miracle qui nous conduit directement dans une zone de turbulence pendant la traversée d'un lac le soir, dans une barque. Certains ont voulu voir dans ce lac agité une image de l'Église brinque-ballée dans les persécutions et les épreuves, et ceux qui ont dû à telle ou telle époque les traverser ont bien sûr pensé à cela en lisant ce texte. Et peut-être qu'il est pour nous plus simple de ramener notre réflexion à notre échelle et nous demander comment De quelle manière, avec quelle attitude, nous tentons de sortir de nos situations de détresse? Parce qu'il faut bien le reconnaître, notre quotidien se déroule selon ses propres règles. Il ne nous demande pas notre avis. Il le fait sans que nous puissions vérifier une quelconque présence divine au beau milieu de nos activités et dans l'encombrement de nos journées. Le tragique, c'est le surprenant par essence. C'est l'inattendu. Et c'est ce qui arrive dans la situation décrite à bord du bateau, alors même que Jésus, tranquillement, comme si de rien n'était, dormait à l'avant, la tête sur un coussin. L'angoisse des disciples est bien compréhensible. Nous pourrions nous projeter plus facilement dans leur peur des vagues qui commencent à remplir le bateau que dans l'attitude de Jésus qui dort tranquillement au milieu de creux de 2 mètres. L'angoisse des disciples est bien compréhensible vu la situation, et pourtant, personne n'est coupable de quoi que ce soit dans ce texte. Personne n'est responsable. Personne n'est coupable de négligence, surtout. Ils ont tout fait pour que la barque flotte à peu près. Pas d'incompétent, pas de négligent, pas de coupable. C'est sans doute la première leçon à tirer de ces récits, de celui-ci en particulier. Les circonstances qui nous accablent souvent n'ont rien à voir avec ce que nous appelons la foi, c'est-à-dire la manière dont nous nous armons pour les traverser, comme si elle était intimement liée ou directement proportionnelle à notre capacité de sortir de situations difficiles. Ce n'est pas toujours le cas. Jésus embarque bien avec ses disciples, avec ses amis, sur la même barque, et c'est surtout leur comportement qui est étrange. Le leur, pas celui de Jésus qui dort. Face au drame qui se noue, face au danger, leur premier réflexe est de culpabiliser Jésus. « Tu ne te soucies pas de nous. Nous sommes sur le point de mourir, tu t'en fiches. » Comportement étrange mais familier. Nous avons tendance à chercher un responsable ou une explication à ce qui nous arrive. C'est plus facile que trouver une solution d'ailleurs. Surtout si les circonstances sont difficiles à traverser. Il est très difficile d'y résister, mais c'est surtout une arme à double tranchant. Nous ne sommes effectivement pas responsables des coups de vent, des bourrasques qui peuvent parfois nous renverser. Mais l'absence de raison nous pousse parfois à chercher la responsabilité ailleurs que chez nous. Il doit bien y en avoir un, si ça n'est pas moi. Alternative mortelle entre la culpabilité maladive ou la recherche de bouc émissaire. Ceux qui sont sur la barque ne peuvent rien contre le vent qui risque de les faire chavirer. Alors ils se rabattent sur le plan B, qui ne leur avait rien demandé. Celui qui a assez confiance pour dormir du sommeil du juste est coupable de ne pas se réveiller au bon moment. Dans quelle catégorie nous classer ou nous placer nous-mêmes? Que vaut-il mieux avoir une belle solitude face aux circonstances, quand c'est possible, ou bien un Dieu problématique qui oscille entre impuissance et complicité? Ce n'est ni une boutade, ni une plaisanterie, ni une question en l'air. Traverser une épidémie a donné à certains l'envie d'avoir un Dieu aussi problématique que celui-ci, englué dans son ambiguïté. Spectateur impavide de nos déboires sanitaires, ou pour d'autres, fabricant de virus, pour sonner le rappel à l'ordre. C'est plus fort que nous. Nous cherchons forcément un coupable, ou bien une explication. Si le temps le permet, les deux. C'est probablement dans ces moments-là que nous montrons non pas notre force, mais à quel point notre confiance, notre foi est faible, voire inexistante. À quel point elle n'est pas notre pente naturelle. Il faut à la fois l'assumer, c'est comme ça, mais ne pas nous y résigner. La fin du récit est encore un peu plus troublante si vous le relisez avec attention. Ça ne résout pas forcément nos affaires. On y apprend qu'avec une foi suffisante, on triomphe des événements, que l'expérience dément en général ce genre d'affirmation. On ne sort pas toujours indemne de ce qui nous arrive, nous le savons. Nous pourrions passer beaucoup de temps à recenser les situations où l'issue heureuse se fait attente. Nous ne manquerions pas d'exemples. Mais ce n'est pas, encore une fois, la foi qui est en cause ici, ou la confiance. Si le texte présente une issue heureuse malgré tout, et c'est vrai, c'est parce que, malgré l'hostilité du monde, promesse nous est faite d'avoir une certaine autorité sur les événements. Quand on regarde une tempête ou le vent qui se lève à la pointe du rat, on n'est pas sûr de maîtriser les éléments. Et pourtant, la promesse nous est faite d'avoir une certaine autorité sur ces événements que pourtant nous ne modifions pas ou que très peu. Peut-être pas de manière fracassante d'ailleurs. C'est ce que semble indiquer l'expression « il se fit un grand calme ». C'est la manière dont la foi se fraye un passage dans cet ouragan. Et elle dit surtout les effets de la présence de Dieu en nous, c'est-à-dire la manière dont nous le manifestons au milieu de ces événements. Quand nous en sommes capables, alors nous pouvons enfin voir au-delà du flux des événements, au-delà du tumulte, nous en extraire un peu. Dans « Vendredi ou la vie sauvage », Michel Tournier écrivait « Voyez-vous, l'avantage des tempêtes, c'est qu'elle vous libère de tout souci. Contre les éléments déchaînés, il n'y a rien à faire, alors on ne fait rien. On s'en remet au destin. Destin ou pas, il y a certainement quelque chose à reprendre de cette invitation au grand calme. La foi se joue ici, à égale distance de la résignation et de l'agitation vaine. La seule chose à faire dans la tempête, c'est de garder le cap. Arrivé à ce stade, il se pourrait que nous soyons capables, nous aussi, de nous endormir paisiblement la tête sur un coussin, quoi qu'il arrive. Amen.